Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous. Les nouveaux chemins se demandent tous les jours comment devenir sage en compagnie d'Alexis Anne Braun, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Jules Salomon. À la lecture des textes cette semaine, une Sophie, Sophie Angèle. À la réalisation sophistique, Philippe Baudouin. Avec aujourd'hui, à la prise de son éléastique, Alexandre Chenet. François Nudelman, quant à lui, vous donne rendez-vous à 10h50 pour son journal de la philosophie. François s'entretiendra aujourd'hui avec Jean Habitbol à propos de son livre « L'Odyssée de la voix » publié en Champ Flammarion. Est-il plus facile d'expliquer l'amour ou de définir la sagesse ? De préciser l'un ou de justifier l'autre. Si tous les philosophes ne sont pas des amoureux transis de la sagesse, il ne suffit pas non plus d'être sage pour être philosophe. Pas étonnant ensuite qu'il soit si difficile de dire ce qu'est la philosophie. Que se cache alors derrière les multiples visages de la Sophie, cette sagesse tantôt savante, tantôt prudente, tantôt ostentatoire ? C'est en prenant au sérieux l'étymologie du terme que nous vous proposons cette semaine d'explorer les sophies de la philosophie. Demain, Céline Spector vous présentera Sophie, la compagne d'Émile, personnage créé par Rousseau qui porte le titre du livre consacré à l'éducation. Sophie qui sera, vous le verrez, tenue pour unique responsable des déboires amoureux du jeune homme. Mercredi, Colas Duflot retracera les aventures de Sophie, ou comment au XVIIIe siècle, philosophie et roman ont peu à peu fait couche commune, ouvrant du même geste la philosophie au lecteur de romans et hissant le romanesque vers les sphères de la théorie. Et jeudi, Thomas Benatouille vous initiera aux exercices spirituels des stoïciens jusqu'à Pierre Hadot. Mais pour l'heure, pour débuter cette semaine, commençons par le plus difficile, l'adversaire le plus redoutable du philosophe, non pas l'ami de la sagesse, mais celui qui fait un usage remarquable de son savoir, le sophiste, sans qui le philosophe ne se nommerait pas ainsi.
Sais-tu ce que tu t'apprêtes maintenant à faire ? Ou est-ce que tu ne t'en rends pas compte ? Tu t'apprêtes à confier le soin de ton âme à un homme qui est, comme tu dis, un sophiste. Mais ce que peut bien être un sophiste, cela m'étonnerait que tu le saches. Est-ce que le sophiste ne se trouve pas être une sorte de négociant qui vend, en gros ou en détail, les marchandises dont l'âme se nourrit ? Nous devons prendre garde, mon ami, à ce que le sophiste ne nous abuse pas lorsqu'il fait l'article des marchandises dont il fait commerce, comme le font les négociants qui vendent, en gros ou en détail, la nourriture du corps. En effet, ces derniers ne savent pas eux-mêmes quelles sont, parmi les denrées qu'ils apportent, celles qui sont bonnes ou celles qui sont mauvaises pour le corps, et font indifféremment l'article de toutes celles qu'ils vendent, et leurs clients n'en savent rien non plus, à moins qu'il se trouve être maître de gymnastique ou médecin. De la même manière, ceux qui colportent leurs enseignements de ville en ville pour les vendre en gros et en détail font à chaque fois l'article de tout ce qu'ils vendent à l'intéressé et peut-être, excellent ami, s'en trouve-t-il parmi eux qui ignorent des produits qu'ils vendent, ceux qui peuvent être bons et ceux qui peuvent être mauvais pour l'âme. Prends garde, bienheureux ami, à ne pas risquer sur un coup de dé ton bien le plus précieux. Car le risque est plus grand lorsqu'on achète des enseignements que lorsqu'on achète des aliments. Des enseignements, il n'est pas possible de les emporter dans un récipient distinct de soi, mais il est nécessaire, une fois le prix payé, de prendre l'enseignement dans son âme même, d'apprendre et de s'en aller, qu'il y ait dommage ou profit.
Thank you. Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. Vous êtes philologue, philosophe, directrice de recherche au CNRS, l'auteur d'un ouvrage consacré à la sophistique intitulé « L'effet sophistique à la NRF chez Gallimard » et puis plus récemment « Jacques le sophiste, Lacan, Logos et psychanalyse » qu'on trouve aux éditions Eppel. C'est avec vous donc que nous commençons cette semaine consacrée à la sagesse, à la sophie de la philo, en parlant des sophistes justement. Alors l'image des sophistes que Platon nous a léguée, on l'a entendu dans le texte qui vient d'être lu, tiré du Protagoras, le dialogue Protagoras de Platon, c'est celle des penseurs maudits qui ne sont là que pour avoir tort, pour être l'espèce de revêt inverse de la philosophie. Est-ce que les sophistes sont autre chose que le portrait que Platon en propose?
Oui, bien sûr. Il y a toujours le portrait chez Platon, c'est moins bien que l'original, hein, c'est moins bien que l'idée. Eh bien, le sophiste, c'est bien autre chose que son portrait platonicien, et que son portrait dans l'ensemble de l'histoire, de la grande histoire de la philosophie, Platon, Aristote, jusqu'à Heidegger. Mais ça n'est pas si simple de savoir ce que c'est, pour autant. Parce que, justement, on a très peu de textes directs d'eux, et ils nous ont été transmis par des ennemis, par ceux qui sont devenus leurs ennemis, à savoir, justement, Platon et Aristote, et puis un certain nombre d'autres. Alors, peut-être ce qu'on a entendu dans ce texte qui est tiré du Protagoras, il y a une chose qui est très saillante et qu'on retrouve dans tous les textes de Platon et qu'on retrouve dans Aristophane et qu'on retrouve partout, c'est que le sophiste, ça vend.
C'est un négociant. Du Platon, qui vend en gros ou en détail les marchandises dont l'âme se nourrit.
Bon. Donc, il ose faire de l'argent avec de l'impayable, à savoir la sagesse, la vérité, l'idée. Bon. Donc, en ce sens, ce sont, comme dit Aristophane, des ventre-langues. C'est absolument dégueulasse. Bon. C'est le contraire du philosophe, comme Socrate, qui jamais ne se fait payer pour aller comme la mouche, comme le temps, interroger les gens sur ce qu'ils savent et ce qu'ils sont. Donc, le sophiste, c'est au fond quelqu'un qui... Alors, vous avez entendu, en même temps, et c'est lié... Ce sont des étrangers, ils colportent leur enseignement de ville en ville. Ils viennent d'ailleurs. Hein, et il y a une espèce de double défaut. Ce ne sont pas des Athéniens. Bon, Gorgias, par exemple, vient de Sicile. Bon, et ce ne sont pas... Protagoras vient d'Abdère. Et ils vendent.
Mais là, ce que vous dites renvoie à une réalité historique du sophisme. C'est là-dessus qu'il faut insister. Non seulement ils ont existé, mais ils faisaient de la sophistique, ce que nous nommons maintenant la sophistique, leur métier. Il s'agissait de vendre leurs services auprès des citoyens d'Athènes pour apprendre à parler et donc à obtenir la persuasion des autres.
Oui.
Et ils avaient comme statut d'être ce qu'on dit des vagabonds, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas athéniens et qu'ils se déplaçaient de ville en ville.
Oui, ils se déplaçaient. Mais le point est qu'ils prétendaient non pas aimer la sagesse, ce que feront les philosophes, mais être déjà compétent, expert, sage ou sophiste. Bon. C'est le même mot, évidemment, et c'est pour ça que vous avez choisi de commencer par là. C'est bien la même racine, sophos, sophistes, et on dit que les sept sages, donc l'antiquité même hein, de la sagesse, les sept sages, s'appelaient sophistes. Bon. Et c'est vrai. Donc, ce statut d'expert, voilà ce qui était intolérable pour ceux qui prétendent, comme Platon ou comme Socrate, simplement aimer la sagesse et donc la chercher, ne pas l'avoir encore possédée. Et pourquoi est-ce que les sophistes donc, avaient cette figure d'intellectuel itinérant? Mais Hegel le dit très très bien, hein, ce sont les maîtres de la Grèce. Maître au double sens de pédagogue, d'instructeur, ils apportent la paideia, ils enseignent, et maître au sens de politique, ce sont eux qui donnent leur constitution aux cités. Donc c'est beaucoup, et on peut comprendre que Platon, qui les trouvait vraiment démocrates, et ça il faudrait en reparler, ne puisse pas les supporter.
Les sophistes sont les maîtres de la Grèce. C'est par eux que la culture proprement dite y est venue à l'existence. Ils ont pris la place des poètes et des rhapsodes qui étaient auparavant les maîtres universels. La religion n'était pas didactique, l'enseignement en était absent. Les prêtres offraient les sacrifices, rendaient les oracles, interprétaient les sentences des oracles, mais autre chose est d'enseigner. L'enseignement que les sophistes ont dispensé portrait sur la sagesse, les sciences en général, la musique, les mathématiques, telle était leur première destination. C'est avant Périclès que s'était introduit le besoin d'une culture faisant appel aux pensées. Les hommes voulaient être formés dans leurs représentations, et tel était le but visé par les sophistes. Ils avaient la charge de la culture. Le besoin de se déterminer par le penser à l'égard des diverses situations et non plus simplement par oracle, par coutume, par passion, par les impressions du moment. Le but de l'État est l'universel sous lequel est saisi le particulier. C'est cette culture que les sophistes ont répondu. L'enseignement était leur affaire, leur métier, comme un État qui leur était propre. Ils tenaient ainsi la place des écoles. Ils parcouraient les villes, la jeunesse attachée à eux et était formée par eux.
Dans le cadre de la campagne d'éducation des Shadocks que nous avions promue au début de notre feuilleton, nous allons assister aujourd'hui au premier cours de logique Shadock du professeur Shadocko. Au programme, les passoires. On appelle passoire tout instrument sur lequel on peut définir trois sous-ensembles. L'intérieur, l'extérieur et les trous. L'intérieur est généralement placé au-dessus de l'extérieur et se compose le plus souvent de nouilles et d'eau. Les trous ne sont pas importants. En effet, une expérience simple permet de se rendre compte que l'on ne change pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre des trous, puis en réduisant cette moitié de moitié, etc., etc. Et à la limite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trous du tout. D'où théorème, la notion de passoire est indépendante de la notion de trou, et réciproquement. On appelle passoire du premier ordre les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau. On appelle passoire du second ordre les passoires qui laissent passer et les nouilles et l'eau. On appelle passoire du troisième ordre, ou passoire complexe, les passoires qui laissent passer quelquefois l'un ou l'autre et quelquefois pas. Pour qu'une passoire complexe laisse passer l'eau et pas les nouilles, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre des nouilles. Pour qu'une passoire complexe laisse passer les nouilles et pas l'eau, il faut et il suffit que le diamètre des trous soit notablement inférieur au diamètre de l'eau. Quant aux passoires du premier ordre qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, il y en a de deux sortes. Les passoires qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau, ni dans un sens ni dans l'autre, et celles qui ne laissent passer ni les nouilles ni l'eau que dans un sens seulement. Ces passoires-là, on les appelle des casseroles.
Le cours de logique par le professeur Shadocko Barbara Cassin qui montre tous ces paralogismes qui s'enchaînent les uns à la suite des autres et qui propose peut-être une version caricaturale de ce que serait la sophistique, vous nous le direz, mais qui vient s'opposer frontalement à la thèse de Hegel dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie dont j'ai lu un extrait juste avant pour Hegel, selon qui les sophistes avaient en charge la culture, la transmission de la culture au sein d'une démocratie nouvelle. Alors, où se situent les sophistes entre la vision peut-être idéale qu'en propose Hegel et la vision caricaturale que vient ici exprimer les Shadocks?
Mais précisément dans la jonction. C'est-à-dire qu'ils sont et, comme dit Hegel, et comme disent les Shadocks. Et le plus intéressant, c'est la manière dont on peut faire la jonction entre les deux. C'est-à-dire dont on peut faire la jonction entre un usage entièrement libre de la parole, ce que j'appelle, après Novalis, logologie, c'est-à-dire parler pour le plaisir de parler, ce que font les Shadocks. Et ils font ça, évidemment, pour se moquer d'une façon logique tout court, hein, qui parle pour le plaisir de démontrer, et même pas du tout pour le plaisir, pour les nécessités de la démonstration. Bon. Alors là, c'est pour le plaisir de parler. Et parler pour le plaisir de parler, et faire avec ça du politique, faire avec ça de l'éducation, voilà le génie de la sophistique. C'est véritablement le point d'insertion et le point d'insoumission totale de la sophistique au platonisme. Bon. Donc, je pourrais commenter chaque... vous avez bien entendu, Hegel est hegelien. On n'y peut rien, c'est magnifique, il est parfait. On va faire rentrer le particulier sous l'universel. Parfait. Mais c'est juste, hein, je l'ai cité d'emblée, les maîtres de la Grèce, c'est le meilleur diagnostic qui ait pu être donné sur la sophistique par un grand philosophe. Bon. Ensuite, Comment est-ce que ça s'allie à l'usage de la parole? C'est véritablement ce que Platon ne peut pas supporter, hein, que parler puisse fabriquer quelque chose comme de l'être et un monde commun.
Alors ça, c'est très important, dire que parler peut fabriquer de l'être, c'est dire que l'être se situe dans le langage et ne le précède pas.
Oui, c'est-à-dire que...
Ici, il y a une confrontation, sur une discussion, disons, ontologique.
Absolument, c'est la différence entre ontologie et logologie. Et moi, si je me suis intéressée à la sophistique, c'est parce que les sophistes sont des présocratiques et que j'avais l'idée qu'on peut être autrement présocratique que ne l'est Parménide, et en tout cas que ne l'est Parménide lu par Heidegger. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que... au lieu de partir du « il y a, esti, es gibt, il y a de l'être », on parte, et c'est ce que fait Gorgias lisant Parménide, et ça c'est mon point, juste une incise, il est essentiel de comprendre que la sophistique est un discours second. C'est un discours qui est sur un autre discours, sur un discours qui a déjà eu lieu, comme les Shadocks. Les Shadocks, c'est un discours second par rapport à une démonstration démonstrative. Hein, eh bien, là, la sophistique est un discours second par rapport à au discours de la naissance de la philosophie qu'est par exemple Parménide. Gorgias écrit un traité du non-être au moment où Parménide, ou juste la génération d'après, que Parménide ait écrit un poème sur l'être, sur la nature ou sur l'être. Gorgias écrit traité du non-être ou sur la nature.
Mais pourtant, il y a autre chose qu'une simple volonté de contradiction qui serait absolument stérile.
Absolument. C'est ce passage entre l'ontologie et la logologie, c'est-à-dire une critique très très violente de l'ontologie qui dit « Ah, vous faites semblant, vous faites comme si l'être était toujours déjà là et donc vous, berger fidèle, là je prends les termes heideggeriens, vous, homme, berger fidèle, vous avez à le dire, à le dévoiler, à le faire déclore et c'est votre tâche d'homme. » Ausgabe, allons-y. Bon, ça, c'est Parménide lu par Heidegger. Maintenant, il s'agit avec Gorgias de dire « Ah, mais c'est ce que vous dites. » Oui, c'est ce que vous dites. C'est en disant l'être, en le disant dans vos mots, que vous le faites advenir. C'est ainsi qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne va pas de l'être au dire de l'être, mais du dire à l'être.
Et pourtant, reste-t-il de l'être chez Gorgias, puisque justement, il écrit un traité du non-être où il dit que rien n'est, que si c'est, c'est inconnaissable, et que si c'est et si c'est connaissable, c'est incommunicable. Il ne reste à proprement parler plus rien.
Il reste une diminution. C'est absolument génial. Hein, il reste, au lieu d'avoir une espèce de fusis, c'est-à-dire nature, qui pousse et qui croît, n'oubliez jamais que... tous les traités des présocratiques et au plus haut point celui de Parménide s'appellent périphuséo, sur la nature ou sur ce qui est. L'être, c'est ce qui croit, bon, ce qui envahit, comme ça. Et pour Gorgias, l'être, bon, ça n'arrête pas de diminuer. Hein. C'est le non-être qui, au fond, est premier par rapport à l'être parce que l'être n'est qu'un effet de dire. C'est ça la proposition essentielle du traité du non-être de Gorgias. L'être est un effet de dire. Au lieu qu'on aille de l'être au dire, comme dans la fidélité ontologique, on va du dire à l'être, comme dans la liberté logologique.
Donc il reste une forme d'ontologie, alors, y compris chez les sophistes. Puisque l'être subsiste, puisqu'il pourrait tout à fait se débarrasser de la notion même d'être et dire qu'il n'y a pas d'être, mais simplement des manières d'être subjectives qui seraient aussi variées que les discours qu'on peut énoncer.
Oui, c'est un tout petit peu plus intelligent que ça, on va dire. Pourquoi plus intelligent? Parce que, justement, il ne nie pas qu'il y a de l'être parce qu'on l'a dit. L'ontologie est un discours qui a gagné. C'est un discours qui marche. Et donc, leur logologie qui s'inscrit comme critique de l'ontologie tient compte de l'ontologie qui est. Bon. Donc, l'être est un effet de dire. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Cette proposition-là, si vous voulez, est beaucoup plus intéressante et beaucoup moins sujette, disons, à sacralisation. Hein, que quelque chose qui pourrait être ce qu'on appelle ensuite l'ontologie négative, qui donne le refuge ultime de Dieu. l'ontologie négative. C'est comme ça que, pendant des siècles, une lignée alternative, mais très profondément sacralisante et religieuse, a défini Dieu, l'être. C'est beaucoup plus intéressant de ne pas laisser place à ça et de dire, oui, l'être est là, vous le dites. Oui. Bon. Et c'est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe quand on le sait. Quand on sait que l'être est un effet de dire, eh bien, il se passe qu'on peut déplacer les choses et qu'au lieu d'être, disons, lié à la fusis, d'être des naturologues, des météorologues, tout ce que vous voudrez, eh bien, on devient des politiques. Et on fait être un certain nombre de choses qu'on choisit de faire être, à savoir un discours commun, par exemple, sur la cité. Et la cité est un entrelacs de discours.
Et cette dimension politique est fondamentale puisqu'elle s'intéresse à la elle manifeste la dimension proprement performative du langage. Si l'être est un effet du dire, c'est donc que chaque discours va lui produire, avoir des conséquences réelles sur chacun des récepteurs de ce discours. Et donc dans un domaine, disons, dans une sphère politique, cela montre l'importance de l'utilisation du langage de la part, disons, des représentants de la cité. C'est pour cela que les sophistes étaient tant convoités.
Absolument.
À l'époque. C'est au début de la démocratie athénienne, chacun devait, lorsqu'il prenait part dans l'assemblée, devait se défendre par ses propres moyens. Et donc il était dans son intérêt d'avoir appris à parler et appris à mesurer l'effet que le discours a sur les autres.
Oui, alors là vous parlez rhétorique.
C'est-à-dire alors, quelle différence
ben voilà, la rhétorique, c'est, je crois, je la définirais comme ça, l'invention de la philosophie pour domestiquer la sophistique. Vous voyez très bien ça dans le Gorgias de Platon. Il se trouve que Socrate interroge Gorgias et lui dit « Mais toi, t'es bon en quoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui fait dire « La rhétorique, Socrate ». Mais rhétoriquae, comme sophistiquae, comme d'ailleurs probablement dialectiquae, hein, dialectique, sophistique, peirastique, etc. Tout cela, ce sont des mots platoniciens. Ce sont des inventions platoniciennes, mais Platon met le terme de rhétorique, cette invention-là, dans la bouche du sophiste Gorgias. Et dit, voilà, ce que tu fais, hein, c'est toi qui leur as dit, Gorgias, tu fais de la rhétorique.
Et donc la rhétorique serait une manière, serait uniquement l'effet de la sophistique. La rhétorique serait la façon qu'on peut essayer de trouver, de faire adhérer un auditeur à son propre discours. C'est une espèce de méthode.
Alors voilà, il y a plusieurs. Enfin, à mon avis, il y a un point très important à comprendre. C'est que je peux le dire d'une phrase de Lyotard que je trouve très très intelligente dans le différent. Il dit il faudrait étendre l'idée de séduction. Ce n'est pas le destinataire, c'est-à-dire vous qui m'entendez, qui est séduit par le destinateur, moi qui parle, celui-ci, c'est-à-dire celui qui parle, hein, le référent, c'est-à-dire la chose, le sens des mots, n'en subissent pas moins que le destinataire, que l'auditeur, la séduction exercée. Alors là, on explose tous les cadres de la rhétorique philosophiquement entendue. Il s'agit de montrer à quel point le discours a une force performative. Et peut-être on commence à la comprendre lorsqu'on lit l'éloge d'Hélène de Gorgias, qui est un texte absolument sublime en grec. Je regrette de ne pas pouvoir le lire en grec. C'est un texte qui fait sonner tous les gros mots de la langue grecque. Hein. Logos, kalos, etc. La beauté, le monde, cosmos. Bon. Il les fait tous résonner, il les met tous en résonance. Et il fait adhérer l'auditoire à cette espèce de grand-messe. Et puis, à partir de là, chlouk, il produit un changement. Et il fait changer tout l'auditoire d'idée. Il le fait passer à une autre compréhension de ce que c'est que, en l'occurrence, Hélène. Hélène, on raconte que Gorgias est arrivé en ambassade à Athènes pour supplier les Athéniens d'être un peu plus cool dans leur guerre. Bon, et il a donc plaidé pour la paix. Et puis, il a expliqué qu'il allait quand même faire des discours sur la grande place, sur l'agora. Premier discours, un blâme d'Hélène, comme tout le monde fait. C'est-à-dire Hélène, c'est la pire des femmes, c'est celle pour laquelle pardon, c'est celle pour laquelle les Grecs se sont entretués dans l'Iliade et dans l'Odyssée. C'est l'horreur, elle a suivi son amant, bon, elle a mis à feu et à sang la Grèce entière. Pas difficile d'en faire le blâme. Tout le monde est d'accord. Et puis, même jour, ou plutôt le lendemain, même heure, même lieu, Gorgias revient et fait l'éloge d'Hélène. Et là, il explique qu'Hélène est absolument innocente, que c'est la meilleure des femmes. Et il en persuade tous les Grecs, tous les Athéniens. Il les fait changer de consensus. C'est à ça que ça sert. Et je pourrais, si vous voulez, vous lire ces deux premiers paragraphes très vite, si vous avez envie de les entendre.
Alors, allez-y rapidement.
Voilà, alors, premier paragraphe, paf, le consensus. Hein. Ordre pour la cité est l'excellence de ses hommes, pour le corps la beauté, pour l'âme la sagesse, pour la chose qu'on fait la valeur, pour le discours la vérité, leur contraire est désordre. Homme, femme, discours, œuvre, cité, chose, il faut à ce qui est digne d'éloge faire l'honneur d'un éloge, à ce qui en est indigne appliquer un blâme, car blâmer le louable ou louer le blâmable est d'une égale erreur et d'une égale ignorance. Vous voyez, premier paragraphe, absolument... disons, consensuel, mais dans les grandes largeurs, communion sur les valeurs, communion des valeurs. Deuxième paragraphe. C'est au même homme qu'il appartient, au même homme, à savoir Gorgias, qu'il appartient de dire avec rectitude ce qu'il faut et de contredire ceux qui blâment Hélène, femme qui rassemble en une seule voix et en une seule âme la croyance des auditeurs et des poètes, et le bruit d'un nom qui porte mémoire des malheurs. Moi, je veux, donnant logique au discours, faire cesser l'accusation contre elle dont on entend tant de mal, démontrer que les blâmeurs se trompent, montrer la vérité et mettre fin à l'ignorance. Eh bien là, on passe, on transforme l'opinion générale. On change le consensus. Et ça, c'est absolument génial d'y arriver par des mots. Et c'est ainsi que ça se passe. Ça se passe et... dans tout l'éloge d'Hélène, Gorgias fait l'éloge du logos, l'éloge du discours, et montre que cette pauvre Hélène, bon, elle a peut-être été enlevée par Paris, elle, par force, ou bien c'est les dieux qui ont voulu qu'elle soit enlevée, d'accord, elle n'est pas coupable avec toutes ses raisons. Mais en vrai, même si elle a voulu le suivre, Paris, eh bien, elle n'est pas coupable parce qu'elle s'est laissée séduire par le discours de Paris, par le logos. Et ça, personne n'y peut rien. Là, le logos, et il y a cette phrase que je trouve absolument admirable, le discours, est, le logos, est un grand puissant, un grand dynaste, qui, avec le plus petit et le plus inapparent des corps, performe, c'est comme ça que je traduis apothélaï, performe les actes les plus divins.
What was the worst thing about apartheid?
Ultimately, it's actually when it makes you doubt that you are a child of God. When you are subjected to treatment that begins to work in here, and you begin to say, hey, maybe they are right. Language is very powerful. Language does not just describe reality. Language creates the reality it describes. And so when they call you a non-European, a non-this, you might think it isn't working on you. But in fact, it is corrosive of your self-image. You end up wondering whether you are actually as human as those others.
Vous
écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h30, c'est le premier temps aujourd'hui de notre série d'émissions consacrées à la sagesse, à la Sophie de la philo. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Cassin, philologue, philosophe, directrice de recherche au CNRS, avec qui nous évoquons la figure du sophiste, l'adversaire du philosophe. Barbara Cassin, c'est que la sophistique est aussi une réflexion et une mise en œuvre de la puissance du langage. Et le meilleur exemple de ça, si on change d'époque, c'est le discours qu'on vient d'entendre de Desmond Tutu en 1999, donc lors de la commission Vérité et Réconciliation, donc, où, insufflé par Mandela à partir du moment où il est à la présidence d'Afrique du Sud et qu'il essaye de dépasser le statut qui était celui de l'apartheid. Et Desmond Tutu, on l'a entendu, c'était en anglais, mais il disait ceci: le langage est extrêmement puissant. Le langage ne fait pas juste décrire la réalité, mais il crée la réalité qu'il décrit par ailleurs.
Oui.
C'est un cas particulier, une application directe de la présentation que vous venez de donner des sophistes.
Absolument. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud. Et j'ai vu en acte se réaliser au moyen de mots cette création extraordinaire qu'est le peuple arc-en-ciel, Rainbow People. Donc le peuple arc-en-ciel, c'est-à-dire de toutes les couleurs, dont on peut dire oui, mais enfin, le noir n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel, et à quoi on peut répondre oui, mais le blanc non plus. Bon, donc c'est le peuple arc-en-ciel qui s'est inventé avec la commission Vérité et Réconciliation comme un tissu de discours entremêlé et une attention portée à ce que font les mots. Alors, il y avait beaucoup de types de discours et de types d'attention qui se mêlaient dans la commission Vérité et Réconciliation. Il s'agissait en même temps de politique, donc de créer un passé commun, assez de vérité pour... C'est une phrase de Desmond Tutu aussi, « Enough of the truth for », pour qu'on puisse dealer avec le passé, pour qu'on puisse le supporter et en faire quelque chose. Au point que les perpetrators, ceux qui avaient commis les actes contraires aux droits de l'homme, des violations de droits humains, puissent réappartenir par leur, eh bien oui, par leur discours, et pas seulement par leurs aveux, mais par leur manière de parler à l'autre, puissent réappartenir au peuple arc-en-ciel et le cofonder avec les autres. C'est absolument magnifique, la définition de l'amnistie donnée par Desmond Tutu, c'est la liberté en échange de la vérité. La vérité en échange de la liberté. C'est ainsi que ceux qui ont commis des gross violations, des grosses violations, d'importantes violations des droits de l'homme, s'ils en faisaient alors ce qui s'appelle, encore en anglais, full disclosure, le dévoilement total, eh bien, ne pouvaient plus être incriminés pour cela. Et ce dévoilement total, ils le partageaient avec les autres. C'est ce partage des discours qui fait peuple arc-en-ciel, ou qui fait commun, ou qui fait cité. Mais Hannah Arendt le sait bien, et Hannah Arendt était présente dans l'arrière-plan, comme Aristote d'ailleurs, car Aristote sait très bien que l'homme est un animal doué de logos, et que c'est pour cela, doué de discours, et que c'est pour cela qu'il est plus politique que les autres animaux.
Alors, jusqu'où va cette thèse du langage qui crée la réalité, puisque le langage, dans le cas du pardon, de la promesse, pour reprendre des termes chers à Arendt, qui s'appliquent d'ailleurs à la commission Vérité-Réconciliation, a une vertu performative qui permet le vivre ensemble, tout simplement, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile. Lorsque nous nommons quelque chose, nous créons un espace commun, la promesse va dessiner un horizon possible à plusieurs, le pardon va permettre de peut-être aider à cicatriser un passé douloureux. C'est ce que fait le langage, mais le
langage ne peut pas se passer, surtout en politique, d'une forme d'action, de mise en œuvre, de mise en pratique, pas seulement d'un langage, ici d'une rhétorique, mais de décision. Donc dans quelle mesure les sophistes peuvent nous permettre de penser cela aussi, cette dimension pratique de la politique ?
Oui, mais vous voyez, permettez-moi juste de relever quelques mots. Promesse, pardon, Arendt, soit, mais Arendt prend bien soin aussi de dire que quand on parle éthique, on ne parle pas politique. Et je crois que la commission Vérité et Réconciliation pouvait être éprise de pardon par ailleurs, mais en tant que commission, elle ne pardonnait pas, elle amnistiait. C'est-à-dire que c'était du politique. Et je pense que là, il faut se méfier du mélange des genres. Hein. C'est en tant que politique que la cité grecque est le monde le plus bavard de tous. C'est une phrase de Burckhardt que j'aime énormément. Ou c'est en tant que politique que la commission Vérité et Réconciliation établit le peuple arc-en-ciel. Autrement dit, vraiment, parler là, c'est agir. Et il n'y a pas besoin d'intention autre que politique. Il n'y a pas besoin de promesses et d'éthique de derrière la tête ou de pardon et de se mettre à genoux devant Dieu.
Mais il y a bien besoin.
Ça peut arriver.
La politique n'est pas complètement évacuée toute sphère éthique de son champ d'application.
Pardon ?
La politique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion éthique, puisque la politique est toujours la mise en œuvre de certains principes, de certaines règles.
Écoutez, pourquoi dire que ces règles sont éthiques ? Là, c'est une vraie discussion. Mmh. Hein ? C'est une discussion.
La discussion
dans laquelle...
par rapport aux sophistes, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce qu'il y a un contenu éthique dans la mise en œuvre du langage par les sophistes ?
Nietzsche dit par-delà le bien et le mal. Et il le dit à propos de la sophistique aussi. Ça, c'est des valeurs qui, depuis longtemps, sont abandonnées par la sophistique. Elles sont réimplantées par le platonisme, par l'aristotélisme, par tout ce que vous voudrez. Mais elles ne sont pas d'abord, en tant que telles, politiques, et donc pas d'abord en tant que telles langagières, et donc pas d'abord en tant que telles sophistiques. Après, il peut y avoir des sophistes moraux, hein, ça c'est encore autre chose. Mais ça n'est pas, de même qu'il peut y avoir des sophistes véraces, ou qui disent la vérité, mais ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Et faire la séparation des ordres, c'est peut-être une chose extrêmement précieuse. En tout cas, la commission Vérité et Réconciliation ne pardonnait pas. Elle amnistiait. Et elle faisait cette différence très nettement. Moi, je me souviens d'avoir vu Yasmine Souka dire, donc une commissaire, dire à une femme qui venait de perdre son mari et qui disait « Mais j'ai reçu des morceaux de mon mari partout dans le garage, il y en avait partout dans le garage. » Et parce qu'il avait ouvert un paquet piégé et il y avait le type qui lui avait envoyé le paquet à côté. Et elle disait « Comment voulez-vous que je pardonne à un monstre aussi horrible ?» Et Yasmine Souka disait, oui, nous ne vous demandons, ma sœur, nous sommes avec vous, nous vous comprenons, mais nous ne vous demandons pas de pardonner, mais nous allons amnistier. Bon, c'est une procédure beaucoup plus sèche et beaucoup plus intéressante dans sa sécheresse. Voilà, juste, si vous voulez, pour reprendre, pour moi, c'est la vieille philosophie traditionnelle qui va demander aux sophistes, mais enfin, vous êtes bon ou vous êtes méchant, hein ? Dites-nous. Bon. Et bon, à quelle aune ? Et avec quels critères ? Et alors là, Platon, la vieille philosophie traditionnelle, répond génialement. À la place de Protagoras, je crois que c'est un texte absolument sublime, dans l'apologie de Protagoras dans le Théétète, c'est une mise en scène magnifique, hein. Socrate dit beaucoup de mal de Protagoras et dit ouais, « L'homme est la mesure de toute chose, pourquoi tu dis pas le cochon est la mesure de toute chose ou le cynocéphale ?» Et puis... Il revient en lui-même et dit « Ah !» Il dit à Théétète, « Si Protagoras était là, il me dirait « Socrate, tu es dégueulasse. Socrate, c'est pas comme ça que tu devrais parler. » Et voilà en effet comment Protagoras parlerait. Et Protagoras parle par la bouche de Socrate. Et il dit « Voilà, moi, je ne cherche pas à produire une opinion vraie. Ça n'est ni affaire ni faisable. » Je ne cherche pas non plus à produire, ni dans les individus, ni dans les cités, quelque chose de plus vrai. Ça non plus, je ne peux pas le faire. Mais je vais produire, alors il passe au comparatif, vous l'avez entendu, je vais produire une transformation des états. C'est-à-dire que je vais faire passer d'un état moins bon à un état meilleur. Donc pas bon. Mauvais, pas vrai, faux. Ce sont des fétiches, ça, le vrai et le faux. Et la différence entre la valeur et le fait, c'est Austin qui le dit à la fin de
Quand dire, c'est faire. Austin, le philosophe américain Austin, auteur de Quand dire, c'est faire.
Voilà, Quand dire, c'est faire. Donc Austin, l'inventeur, entre guillemets, du performatif, parce que d'une certaine manière, bien avant s'est inventée la performance, et ça on pourrait en parler, mais la performance sophistique est un ancêtre de ce qu'est la pointe performative d'Austin. Eh bien la performance produite par Protagoras consiste à faire passer d'un état moins bon à un état meilleur, et pas meilleur tout court, même pas meilleur tout court, mais meilleur pour. Il s'agit de passer, si vous voulez, du rapport vrai-faux bien mal, donc de l'absolu, à une comparaison meilleur, moins mauvais, moins bon, à un comparatif donc, et même à un comparatif dédié, meilleur pour, meilleur dans ce cas. Et cela, c'est la grande invention de la sophistique.
Mais meilleur ici, il faut l'entendre comme étant plus utile.
Oui.
Parce que si vous le dénuez de toute dimension morale, alors
absolument.
On est uniquement dans une réflexion pragmatique.
Après tout, l'utile, on peut le réintroduire, le réinscrire dans la morale. Je veux dire, là, on n'en a jamais fini avec la morale. Hein.
Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'une réflexion sophistique serait toujours relativiste ? Puisque telle chose serait bien pour telle personne, tel être jaillirait de tel discours et un autre d'un autre discours. Est-ce qu'on tombe ici dans une forme de relativisme sceptique ?
Eh bien, pourquoi vous ajoutez sceptique ? C'est là où ça commence à dérailler, si vous voulez. C'est-à-dire que, en ajoutant sceptique à relativisme, on réenclenche la grande philosophie, la grande tradition philosophique. Maintenant, parler de relativisme conséquent, non subjectiviste. Puisqu'il peut s'agir de quelqu'un, d'une cité, etc. C'est meilleur pour. Et évidemment, cela veut dire qu'on prend en considération le singulier. Autrement dit, s'il y a un universel, il n'est composé que de singuliers.
Il y a donc une forme de subjectivisme, alors ?
Subjectivisme, ça renvoie à sujet. Vous n'allez pas dire que la cité est un sujet. Ou alors vous allez le dire, mais c'est par métaphore.
Non, mais lorsque Protagoras écrit « J'affirme quant à moi que la vérité est telle que je l'ai écrite, chacun d'entre nous est en effet mesure des choses qui sont et des choses qui ne sont pas », il parle en son nom. Ici, il ne parle pas au nom de la cité.
Mais il dit que son travail à lui, qui est en somme le maître de la Grèce pour l'instant, son travail à lui est de faire changer les états, de faire passer d'un état moins bon à un état meilleur, un individu comme une cité. Donc, c'est bien Protagoras qui parle. Il y a bien un sujet de l'énonciation. Oui, pour autant, vous n'allez pas dire que toutes les phrases sont relativistes parce qu'il y a un sujet de l'énonciation. Donc, ce n'est pas ça le point. Hein. Il faut être très, très prudent. C'est-à-dire qu'on nous oblige, c'est la grande tradition philosophique, nous oblige à tout mélanger. Quand on dit le sophiste est-il bon, est-il méchant, elle nous oblige à trancher, c'est une démission de ce type de... d'opposition qui est demandée par la sophistique ou qui est produite par la sophistique.
Mais est-ce que l'exemple, vous avez cité Austin tout à l'heure, donc l'auteur de Quand dire, c'est faire, donc sur la dimension performative du langage,
oui.
Est-ce que les philosophes contemporains de ce type-là ne permettent pas de penser une forme de... Alors j'imagine que ça va vous faire bondir, mais de réconciliation entre la sophistique et la philosophie.
Mais je suis tout à fait d'accord pour parler de réconciliation, ça ne me gêne jamais. et puis la philosophie est multiple. Il y a une tradition philosophique, par exemple, à partir de Démocrite, très clairement, les atomistes, une tradition philosophique qui est sophistique, c'est-à-dire qui est, on pourrait imaginer, si vous voulez, de raconter l'histoire, comme dit Benjamin, du côté de la putain, et ça produit une histoire sophistique de la philosophie. Donc je ne dis pas que la philosophie est, je me garderais bien de dire que la philosophie est unique et univoque, et je me garderais bien de trancher, de produire comme tranchée, la différence entre sagesse, philosophie, sophistique.
Oui, parce que Platon n'a pas le monopole de la philosophie.
Absolument, absolument. Et Platon lui-même est complexe, infiniment intelligent. Et si je vous citais l'apologie de Protagoras, elle est bien dans le Théétète et dans la bouche de Socrate. Et c'est probablement l'une des plus fortes interprétations de l'homme et la mesure de toute chose. Que par ailleurs, Platon contredit mille fois. et contre lequel il écrit d'énormes textes, et Aristote aussi. Par exemple, Platon dit non, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Le Dieu est la mesure de toute chose. Bon, très bien. Mais il n'empêche qu'il il interprète génialement l'homme est la mesure de toute chose. Donc, Platon lui-même est infiniment plus périlleusement complexe pour les platoniciens qu'on ne l'imagine.
C'est d'être d'accord. Quelques promesses en bandoulière. J'écoute toutes vos prières. De l'ambition rivée au corps. Pour plaire aux jeunes et aux grands-mères, je dirai tout et son contraire. Je ne vous promets aucun effort. Je serai pour vous comme un père, comme un ami ou comme un frère. Je n'ai jamais aucun remords. Gants de velours et main de fer, tant pis si certains restent à terre. Je suis l'homme providentiel, j'ai affûté mon baratin. La solution tombée du ciel, je promets tout, je ne promets rien. Je suis l'homme providentiel, ni démago, ni magicien. Envoyez-moi au septième ciel et dormez bien.
Merci beaucoup Barbara Gassin d'être venue nous parler des sophistes aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à deux de vos ouvrages, L'effet sophistique, publié chez Gallimard de la collection de la NRF, qui est une bonne façon de continuer, parce que nous n'avons fait qu'amorcer cette réflexion sur la sophistique. Donc vous trouverez tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour être incollable sur le sujet dans ce livre. Et puis plus récemment, Jacques le sophiste, Lacan, Logos et psychanalyse, aux éditions Eppel. Et c'est vrai qu'on aurait pu parler de la psychanalyse, Barbara Gassin. Il y a un lien direct entre la sophistique et la psychanalyse, n'est-ce
mais
pas?
Mais oui, parce que d'abord les psychanalystes se font payer, eux aussi. Et ensuite, ils font passer d'un état moins bon à un état meilleur où sont censés le faire, c'est-à-dire qu'ils se servent du logos comme d'un pharmacon, comme d'un remède.
Lisez donc Jacques le sophiste, c'est aux éditions Eppel.
Je suis l'homme providentiel, j'ai affûté mon baratin. La solution tombée du ciel, je promets tout, je ne promets rien. Je suis l'homme providentiel, ni démago, ni magicien. Envoyez-moi au septième ciel et dormez bien.
Puisque la question de la sagesse est sans fin, en disant que nous n'aurons pas fini d'essayer de la définir, c'est ce qu'on va voir cette semaine, je vous propose d'écouter Barbara Gassin, la réponse que deux enfants de 6 et 8 ans donnent à la question qu'est allée leur poser Géraldine Mosna-Savoie, la collaboratrice des Nouveaux Chemins de la Connaissance, savoir qu'est-ce qu'être sage, et écouter la réponse qu'ils t'ont donnée.
Arrête de faire ton grognon, toi, de toute façon. Patouche ! Non, mais c'est à moi, Augustin, t'as pas le droit. De toute façon, tu sais même pas lire, tu vas pas comprendre.
Je comprends très bien ce livre parce que je l'ai écouté plein de fois.
Parce qu'Augustin, il a des mauvaises notes et qu'il est pas sage à l'école. Si, t'es pas sage et tu te fais gronder. Tu m'as dit que t'étais envoyé en petite section. Si, un jour t'as été envoyé en petite section.
Moi, non, j'ai jamais été envoyé dans des classes.
Enfin, à part quand il y avait chorale avec les petites sections, mais sinon, tous les lundis matin, mais sinon, après, non. J'ai jamais été puni chez les petites sections.
Oh là là, yo.
7 ans et demi ou 7 ans trois quarts.
Dans quelle classe?
CE1. J'apprends et je joue. Et je travaille aussi. Accorder son verbe de son sujet ou de ses sujets. On peut aussi apprendre le nom, la conjugaison, le français, les mathématiques, l'orthographe, le vocabulaire. Je suis un champion de vocabulaire. Ma pire note de contrôle sur 20, c'est 16 sur 20. Sinon après, c'est 18 ou 19 ou 20 sur 20. Ah oui, je suis sage, mais ça m'arrive parfois d'avoir des assez bien ou des bien. Moi, j'aimerais avoir que des très bien. Et puis là, je suis à côté d'un voisin qui écrit mais vraiment hyper bien. Alors je me dis, mais comment il arrive à écrire aussi bien? Pour moi, ça signifie être sage, ça veut dire savoir beaucoup de choses.
La seule bêtise que je fais dans la classe, c'est parler sans que la maîtresse me donne la parole. Sinon, je n'en fais jamais. Mais ça, c'est pas ce que je voulais dire sur la sagesse. Hein. C'est quand on sait beaucoup de choses. Parfois, quand on est vieux, on est sage, ou parfois, on n'est pas sage. On peut aussi devenir sage. On peut aussi devenir sage enfant. Il y a des enfants qui sont sages.
Pour moi, ça veut dire de se taire.
Voilà, être sage, c'est se taire. C'est peut-être la meilleure conclusion à donner sur cette définition de la sagesse. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver François Noudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour cher François.
Bonjour Adèle. La voix, elle est l'objet de nombreuses réflexions philosophiques, mais elle est rarement étudiée à partir de sa réalité psychophysique. Un grand spécialiste des cordes vocales nous fait comprendre sa dimension anthropologique et l'histoire de ses transformations. Jean Habitbol a écrit « L'Odyssée de la voix », paru dans la collection Chants Flammarion. Jean Habitbol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes otorhino-laryngologiste, ORL on dit, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, et votre ouvrage scientifique, je dirais, est aussi philosophique, parce qu'on s'aperçoit à le lire qu'il est impossible d'étudier la voix en séparant sa réalité corporelle et sa nature expressive.
Absolument, c'est-à-dire que c'est comme un violoniste qui a un violon. Faut-il qu'il sache ce que c'est qu'un Stradivarius ? Mais faut-il qu'il sache aussi comment manipuler l'archer qui va jouer sur ce Stradivarius. Alors moi, je suis le luthier qui va gérer ce Stradivarius. Maintenant, je vais le donner à Yehudi Menuhin, il va en faire quelque chose de superbe. Mais je vais le donner à quelqu'un qui ne sait pas jouer, il ne saura toujours pas jouer.
Votre livre a une dimension très large, anthropologique aussi. On comprend l'apparition de la voix, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des propos sur l'apparition de la voix chez le nourrisson, et aussi l'apparition de la voix dans l'histoire humaine. Vous dites, le nourrisson du XXIe siècle est semblable à l'homo erectus du point de vue de leur appareil laryngé.
Tout à fait. On a deux choses absolument passionnantes. La première, c'est que la voix maintenant est apparue depuis presque 2 à 3 millions d'années. On sait tout simplement par les moules qu'on a fait au niveau cérébral dans la boîte crânienne, ça on le sait. Mais quand on regarde, et quand on regarde le livre le troisième chimpanzé, qui est un livre formidable, qui montre comment les indigènes, il y a 2500 ans, n'avaient que 5000 mots. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens, les philosophes par exemple, ont entre 150 000 et 200 000 mots sur lesquels ils ont un vocabulaire différent. Ces mots, c'est la voix et un langage. La voix est un support, est un véhicule de ce langage. Et ce véhicule a deux choses capitales. Le premier, c'est le mot, certes, mais c'est les silences entre les mots. Car ce silence va impacter une chose fondamentale, c'est comment vous écoutez vous-même. Et la voix, l'une des forces les plus intéressantes, certes, c'est la voix par rapport aux autres qui va vous nourrir, car vous vous nourrissez de l'écoute des autres. C'est un enrichissement extraordinaire, c'est une créativité de l'autre par rapport à vous-même, mais cette voix par rapport à vous-même quand vous parlez à vous-même.
Alors c'est ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est assez amusant, c'est qu'en fait quand on étudie la voix ou le larynx, il faut étudier aussi les oreilles. Hein, c'est parce que le récepteur de la voix est très important, il faut des oreilles pour qu'il y ait une voix.
Oui, l'écoute des autres fait que vous allez avoir votre propre voix. Et ça ne commence pas comme on le croit à l'âge de 2 ou 3 ans, c'est bien avant, au moment de la vie fœtale, lorsque le fœtus commence à avoir des oreilles qui vont être fonctionnelles, il va entendre les vibrations, il va entendre la voix de sa mère, et déjà là, l'écoute de la mère, l'écoute dès l'enfance, dès l'âge de 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, va former cette voix. Et dans cette voix, l'écoute des autres et l'écoute de sa propre voix va créer les cicatrices de la vie et la signature de sa propre voix tout le long de sa vie. Oui. La voix à 30 ans n'est pas la même qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60.
Tiens, une question qui nous intéresse tous. Pourquoi on ne reconnaît pas sa propre voix ? Quand on écoute un enregistrement, on se dit « mais c'est vraiment moi, c'est désagréable souvent ».
Tout simplement parce que lorsque je vous écoute, eh bien, j'écoute que par un circuit qui est le circuit extérieur. Donc, c'est l'onde vibratoire de vos cordes vocales qui va arriver sur mon tympan. Cette vibration tympanique écoute que la voix par la voix aérienne. Mais quand je parle, je m'écoute de deux façons. D'une part, cette voix qui passe déjà par le filtre extérieur. Et puis, cette voix qui va résonner à l'intérieur de moi-même, qui fait que c'est l'alchimie et je ne dis pas l'association, l'alchimie de ces deux voix. Car dans cette alchimie, quand je parle, j'ai mon monde émotionnel qui parle également, qui ne sera pas le même que celui que vous allez avoir comme récepteur.
Jean Abitbol, y a-t-il un universel de la voix? Parce que, évidemment, on sait qu'il y a de nombreuses voix humaines, certaines sont plus haut perchées. On sait, alors j'ai compris en vous lisant qu'il y a des tailles de cordes vocales. Mais malgré tout, y a-t-il, à travers toutes ces voix, un universel?
Alors, ce qui est superbe, c'est que la voix, effectivement, c'est le mot vocaliste, c'est totalement universel sur la planète. Mais chacun, on a notre propre empreinte vocale comme notre empreinte digitale. Cette signature, elle vient de deux phénomènes tout simples. Certes, le Stradivarius que vous avez, si c'est un violon soprano ou un violon alto, mais aussi la façon dont vous allez le jouer. Et ça, ça fait partie non seulement de l'écoute de l'autre, de votre propre voix par rapport à l'autre, mais de tout ce que vous avez vécu dans votre vie, dans une voix. Vous avez tout ce monde émotionnel qui transparaît.
Oui. Chacun, mais ça veut dire quoi? Alors, est-ce que ça veut dire que chacun a la voix de sa propre culture? Aussi, les voix, bon, par exemple, à la radio, on ne parlait pas de la même façon il y a 50 ans. Donc, est-ce que c'est la voix de notre propre culture ou est-ce qu'on arrive à singulariser, à avoir notre propre voix unique?
C'est l'association des deux. La voix, par exemple, d'un Japonais par rapport à la voix d'un Français ou d'un Italien. On prend une Italienne, en Italie, vous avez plus de la moitié des femmes qui ont des petits nodules sur les cordes vocales, que je vais peut-être opérer, mais certainement pas systématiquement. En revanche, au Japon, c'est extrêmement rare, tout simplement parce que la linguistique, le langage japonais, impose une langue différente, moins agressive, moins consonante, moins passionnée, beaucoup plus calme. Et de ce fait, aussi, la culture dans le monde japonais, c'est une culture où la respiration est une verticalité, où le centre est le nombril, où cette verticalité va aller sur les arts martiaux que l'on connaît bien dans le monde asiatique, qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc c'est l'association des deux qui fait que oui, la singularité de la voix vient bien sûr de la culture, mais également de la façon dont on va gérer cette voix.
Est-ce que le timbre, c'est ce qui permet de singulariser?
Alors, le timbre est la signature vocale. Et heureusement, je pense et j'espère qu'on ne saura jamais le définir, parce que c'est le propre de chaque personnalité qui fait qu'on garde ce mystère au fond de ce timbre qui est différent en fonction de chacun.
Oui. Vous qui soignez régulièrement de très grandes cantatrices, des chanteurs, justement, qu'est-ce que pour vous qui fait la singularité de telle ou telle voix?
Je vais vous surprendre.
Au-delà du travail, parce qu'il y a le travail, évidemment.
Je vais vous surprendre, c'est l'imperfection de la voix.
Ah oui, oui.
Ce qui me plaît, ce n'est pas d'avoir quelque chose de superbe qui va avoir des vocalises magnifiques, mais à un moment donné, ça va être l'élément qui va nous dire « là, il y a une fragilité ». Et de la fragilité, on ne peut tomber qu'amoureux de cette fragilité.
Bon, elles sont très fragiles, ces voix, on le sait. Oui. Est-on responsable de sa voix?
Totalement.
En quel sens, alors?
La voix, on en est responsable dans la mesure où c'est à nous de la gérer, c'est à nous de la commander. En revanche, la voix peut être, et là elle devient irresponsable, un réflexe par rapport à l'agression des autres. Et on arrive à ce moment-là dans un véritable réflexe de Pavlov, où l'agression de l'autre va vous faire réagir. La seule chose, le cri par exemple, est tout simplement va déchirer le silence. Un moment vous êtes silencieux, vous allez mettre à crier, et cette déchirure du silence, quelquefois, est un réflexe pavlovien.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, qu'il y a un formatage des voix et que, je ne sais pas, bon, s'il s'agit des orateurs ou des sophistes, mais bon, quelquefois, il y a des techniques qui font que, on entend...
Quel dommage, vous avez tout à fait raison.
Oui.
Absolument. On a l'impression qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans le moule, dans ce formatage pour être accepté à la radio, pour être accepté dans l'émission The Voice, Star Academy, etc. Quel dommage. Oui. Parce que quel gâchis de vouloir structurer tout le monde, même dans la voix, qui fait partie intime de notre personnalité.
Oui, oui, oui. Vous évoquez aussi ceux qui savent imiter, justement, prendre la voix des autres. Mm-hmm. Et vous les appelez, c'est amusant, les contorsionnistes du larynx.
Oui. Alors, ce sont les artistes des artistes. Et dans ce contorsionnisme, il y a effectivement un effet superbe qui est un effet musculaire. Ce sont des athlètes. Mais à côté de ça, ils arrivent à donner, par exemple, si on imite Charles Aznavour, faut-il donner le verbe de Charles Aznavour et pas prendre celui de Pierre Perret? Parce que là, ça ne va pas coller. Et on sait qu'on reconnaît Aznavour non seulement par sa voix, certes, mais également par le verbe et par le langage qu'il va employer. Donc ces contorsionnistes de la voix sont également des artistes, car ils arrivent à nous faire penser à l'autre, en sachant pertinemment qu'on écoute ou Laurent Gérard ou Didier Gustin.
Merci Jean Abitbol. Je voudrais terminer par une de vos phrases. La voix se construit dans notre cathédrale intérieure. Et votre livre s'appelle L'Odyssée de la voix et il est paru dans la collection Chant chez Flammarion. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup François, je sais quelle sera ma prochaine lecture, l'Odyssée de la voix donc, et puis tiens, je m'y engage, ça me donne envie, j'en ai envie depuis longtemps, une semaine entière des Nouveaux Chemins sur la question de la voix, j'espère que vous viendrez vous en parler, Jean-Abel Paul. En tout cas, l'émission touche à sa fin, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la sagesse, aux différents visages de la Sophie, de la philosophie. Demain, c'est la philosophe Céline Spector qui viendra nous présenter la Sophie de l'Émile de Rousseau. Sophie qui, malheureusement, ne sera pas à la hauteur de la promesse d'amour formulée par Rousseau et Émile, mais c'est peut-être pour le meilleur. On verra ça demain. D'ici là, rendez-vous sur le site des Nouveaux Chemins pour réécouter cette émission, trouver en ligne les indications bibliographiques et musicales, et puis surtout, surtout pour la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.